Eh ben, t'aurais dû venir voir le 1er septembre.
Ouais.
Le chemin qu'il a fait en 2 mois, Théophile, c'est énorme.
Le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif est un podcast pour vous, les professeurs des écoles, qui souhaitez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation pour vous épanouir en classe et vous sentir compétent et fier de votre travail. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque vendredi, soit j'interview un expert, soit je prends le micro, soit je vous propose un épisode questions-réponses où je réponds à une de vos questions. Ma mission est de permettre à chaque enfant et à chaque adulte qui l'accompagne de développer son plein potentiel. En plus du podcast, vous pouvez recevoir votre concentré Montessori chaque vendredi dans votre boîte mail pour ne plus vous sentir seul dans cette transition et vous poser les bonnes questions. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de chaque épisode. En route vers un plein épanouissement affectif et cognitif. Pour ce 128e épisode, vous allez découvrir le parcours de Guénola, une enseignante du privé sous contrat qui aujourd'hui, je suis sûre, ne pourrait plus revenir en arrière. Guénola a commencé sa transformation à l'été 2021 en se formant avec moi. Et à ce moment-là, elle avait une classe de petit moyen grand à mi-temps. Elle est passée à la vitesse supérieure cette année en se consacrant à plein temps à cette classe et en s'investissant dans une formation Montessori plus longue. Je suis allée observer sa classe au mois de novembre et j'en ai profité, bien sûr, pour filmer les enfants et pour l'interviewer. Vous allez d'ailleurs entendre en bruit de fond les enfants qui jouaient dans la cour. Ce témoignage inspirant vous donnera peut-être envie de plonger dans la méthode de l'enfant. Je laisse place à ma conversation avec Guénola. Alors ce matin, j'ai eu la chance d'observer ta classe. Et maintenant, les auditeurs vont avoir la chance d'entendre ton parcours. Donc on va commencer par là, si tu es d'accord. On va commencer par ton parcours, ta transition, et ensuite on parlera de ce que j'ai pu observer ce matin.
D'accord, avec plaisir.
Bon, déjà, bienvenue sur le podcast.
Merci, je vous écoute avec plaisir, tes podcasts.
Aujourd'hui, c'est ton tour, c'est à ton tour de nous partager un peu ton expérience. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, depuis quand tu es enseignante, les grandes lignes de ton parcours?
Alors, moi, je suis devenue professeure des écoles, c'est une reconversion professionnelle, donc j'ai passé le concours en 2016 et je suis arrivée donc dans cette école à Avallon en 2017. J'ai fait que de la maternelle et depuis 2 ans et demi, là, maintenant, je me suis mise à la pédagogie Montessori, doucement. Alors, ça, c'est grâce à Céline Alvarez. Par rapport à ces vidéos que j'ai vues durant l'été, je me suis dit faut que je change.
Qu'est-ce qui t'a fait tilt dans ces vidéos en fait, quand tu les as regardées, qu'est-ce que tu t'es dit en fait?
Je me suis dit mais en fait je faisais de la garderie avant. Et c'est aussi un sentiment que j'avais avant mes premières années, c'est que j'apprenais rien aux enfants. C'est moi, mes 2 premières années, c'est le constat que j'ai fait. C'est qu'en fin d'année, ceux qui savaient des lettres, ceux qui savaient des choses, c'est pas moi qui leur avais appris. Hein. C'est qu'ils les avaient appris à la maison, c'est l'environnement. Et puis, ceux qui ne les savaient pas, ceux qui avaient un environnement moins stimulant, j'avais pas l'impression de leur avoir appris quelque chose dans l'année. Quoi. Mmh. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, c'est ça, quoi. Mmh. C'est l'environnement qui fait que l'enfant apprend. C'est là où j'ai appris l'esprit absorbant, que j'en avais jamais entendu parler avant. Que dans ma formation, j'ai posé des questions des fois à des formateurs et des comportements d'enfants que je ne comprenais pas et je n'avais pas eu les réponses. Et quand je me suis penchée sur la pédagogie Montessori, là j'ai eu mes réponses et puis voilà.
Donc le déclic, ça a été les vidéos de Céline Alvarez et là tu t'es dit, ah oui, en fait, je suis un peu à côté, peut-être pas à côté de la plaque, c'est peut-être un peu fort comme expression, mais toi, il y a une autre façon de faire et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de mettre ça en place.
Et que vraiment, oui, que la maternelle et l'élémentaire, l'enfant, il fonctionne pas pareil. C'est ça qu'on... J'étais frustrée de ne pas avoir appris ça lors de ma formation. C'est que le cerveau, maintenant je le sais, mais le cerveau, il fonctionne pas pareil avant 6 ans. Donc, c'est pas les théories qu'on nous apprend avant qui peuvent marcher. C'est l'esprit absorbant.
Donc tout ce qui est plan de développement, tu n'en avais pas entendu parler en formation initiale, enfin comme à mon avis 99% d'entre nous.
Hein, voilà, les périodes sensibles, je ne connaissais pas.
D'accord. Donc, est-ce que tu te rappelles à quelle date... Alors, tu as dit que tu as commencé à enseigner en maternelle en 2017. À quelle date, à peu près, tu as visionné ces vidéos? Tu te rappelles?
Ça doit être 2020. D'accord. Je les ai publiées, oui.
D'accord. Ça. Donc, au cours de l'année scolaire 2020, quoi.
L'été 2020, l'été. Que je les ai vues, oui, je les ai visionnées pendant l'été. Et c'est l'année où j'avais décidé de me mettre plus qu'à mi-temps en maternelle et puis mi-temps en ASH. Et c'est là où je me suis retrouvée frustrée. Je me suis dit, zut, je me suis engagée dans l'ASH. Et en fait, il y a moyen de faire autrement en maternelle. Et donc voilà, l'année 2020-2021, j'ai tâtonné, j'ai essayé de faire des choses, mais je continuais à travailler en atelier. Mais je faisais plus des ateliers, donc Montessori, mais plus par groupe. Et puis, j'avais essayé quand même de développer beaucoup plus l'autonomie des élèves. Ils faisaient la vaisselle, j'avais mis en place les chaussons. Enfin, voilà. Mon état d'esprit avait commencé à changer.
Oui, tu veux dire que même si tu n'avais peut-être pas tout le matériel que tu as aujourd'hui.
Oui, j'avais pas
voilà,
de matériel. Mais
tu avais déjà eu cette prise de conscience par rapport aux besoins de l'enfant et par rapport à leurs besoins, enfin l'autonomie, l'esprit absorbant, tout ça. D'accord. En fait, c'était ta première année un peu de transition, quoi. 2020-2021.
Voilà. 2020-2021. Et donc, l'an dernier, 2021-2022, là, suite aussi à la formation avec toi et d'en avoir appris beaucoup plus sur Montessori, là, j'ai vraiment voulu travailler que comme ça. Plus des ateliers tournants, je faisais vraiment plus que du Montessori.
Donc, tu étais toujours à mi-temps quand
et
même.
J'étais encore en mi-temps l'an dernier. Voilà. Mais j'avais... Il n'y avait pas autant d'étagères que cette année, mais j'en avais déjà commencé à mettre des étagères et beaucoup d'ateliers au choix. Vu que c'est une très vieille école, j'avais fouillé au grenier. J'ai trouvé la tour rose au grenier, j'ai trouvé l'escalier marron au grenier.
T'as fait tes courses au grenier, quoi.
Ah oui, donc il y a des maîtresses qui avaient 20 ans qui l'ont fait. Et ça y est, voilà, c'est monté au grenier. Et j'ai des poussières et tout ça. Donc voilà, j'ai eu une base de matériel comme ça. Et...
D'accord.
Pour commencer.
Donc l'été 2020, les vidéos de Seigne Alvarez, une année scolaire à mi-temps avec des petits moyens grands ou que des...
Non, là j'avais que des petits moyens.
Petits moyens. Ensuite l'été 2021, la formation avec moi.
Voilà.
La formation courte. Et ensuite l'année scolaire 2021-2022, petits moyens grands.
Oui, alors là j'avais négocié.
Oui.
J'avais déjà fait un projet auprès de la directrice, donc en expliquant comment j'allais travailler en Montessori. Donc, ça faisait partie du projet d'avoir un triple niveau. Et c'était aussi pour prévenir les parents, quoi, qu'ils ne soient pas surpris qu'on travaille autrement, qu'il y ait beaucoup moins de choses dans les classeurs, il y a beaucoup moins de fiches. Voilà.
Et c'était l'année scolaire dernière, enfin, non pas dernière, même encore avant.
Avant
2020-2021, tu étais à mi-temps, donc tu avais une collègue avec qui tu partageais la classe. Est-ce qu'elle fonctionnait de manière traditionnelle?
Oui.
Mais vous respectiez chacun
nos deux jours et chacun travaillait à sa façon.
Et alors, une question par rapport à l'aménagement de l'environnement, parce que tu ne peux pas, toi, tous les matins, réaménager l'environnement.
La première année, j'avais. Pas des très peu d'étagères. Hein. Là, il y avait l'environnement. Si, c'est vrai. Mon ATSEM, elle changeait tout. Et parce que on faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le mardi soir, elle changeait. Elle remettait tous les jeux d'eau, tous les jeux, les ateliers où il y a de l'eau. Elle les enlevait. Mon collègue, ils n'en voulaient pas. Donc, elle les remettait tous le mardi soir pour moi. Oui, là, on changeait la physionomie de la classe beaucoup.
Et,
c'est vrai.
Et les enfants, alors j'ai déjà la réponse à ma question, mais est-ce que tu peux nous dire comment ils ont vécu ça? C'est deux jours avec une maîtresse, deux jours avec une autre, deux fonctionnements différents.
Oui, bon, ils sont adaptés, ça ne les a pas gênés. Non, non. Ils prenaient ce qu'il y avait à prendre avec chacun.
Ouais. D'accord. Et alors l'année scolaire dernière, 2021-2022, toujours à mi-temps, mais cette fois-ci avec les trois niveaux, et cette fois-ci quand même avec plus de bagages derrière toi, parce que plus de... Voilà, les années passent, ton expérience grandit, tu te formes. L'année dernière, essaye de nous décrire un peu l'année dernière, comment tu l'as vécu, est-ce que tu te rappelles? Parce que des fois, on a tendance à oublier.
Ouais.
Tout à
fait, j'oublie. Comment je l'ai... Au début de l'année, oui, j'ai voulu faire qu'autre chose. J'ai voulu mettre en place aussi des petits jeux de société à faire à deux. Genre jeux de dames ou des petits jeux de cartes qu'ils faisaient à deux. Et ça, enfin, ça a pas marché. Enfin, c'était le bazar dans la classe. Il y avait trop de bruit, je trouvais, et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais ça, c'est pas du Montessori. Faut que je sois cohérente là. Ça peut être très bien aussi, mais voilà. Là, je suis partie sur plusieurs fronts en même temps. Donc après, je dis non. Je fais que du Montessori, que des ateliers à faire tout seul, et donc tous ces petits jeux de société et tout, j'ai dit j'enlève. Et puis, tu vois, cette année, ils y sont plus et j'en crée pas le besoin.
Oui, puis ça peut être sur un autre moment, voilà. La garderie le matin, voilà.
Et puis, voilà, là, j'ai fait, oui, où j'ai fait un, voilà, avant les vacances, j'ai fait une après-midi jeu de société, voilà.
Oui.
Il y a un temps pour les jeux de société, mais... Et puis bon, après, voilà. C'est parce que aussi que j'avais pas beaucoup de matériel au début, donc...
Et cette transition, elle s'est faite en douceur, j'ai l'impression, en 2-3 ans, mais, enfin 3 ans, mais elle s'est faite en douceur. Donc, comment tu, au départ, comment tu as aidé tes élèves pour qu'ils développent cette autonomie, qu'ils ne te sollicitent pas tout le temps, est-ce que pour toi ça s'est fait de manière assez naturelle ou tu te rappelles avoir mis des choses spécifiques en place pour que ça marche?
Bah, ça c'est de façon assez naturelle. Déjà j'avais gardé déjà les élèves, c'est ça super important. Oui. C'est aussi pour ça que j'avais fait tout un projet, c'est pour expliquer aussi à la directrice que je voulais les garder d'une année sur l'autre. Donc ils savaient déjà comment je... Voilà, t'as déjà un noyau qui sait comment tu fonctionnes et qui sont autonomes. Et au début, oui, peut-être mais plus de puzzle, plus... Voilà, tu mets des ateliers qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, qui peuvent faire tout seuls. Plus. Et au début de l'année, j'en avais encore mis un petit peu cette année. Et puis, tu vois, là, j'en ai enlevé. Et
oui, donc des ateliers qui ne demandent pas de présentation particulière.
Pas de présentation.
Voilà, comme des puzzles, comme des choses un peu qui coulent de source. Quoi.
Et après, développer le fait que les grands peuvent expliquer aux petits.
Ouais.
Parce que tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Hein.
Ouais, donc c'est ça en fait, au fur et à mesure du temps, plus les années passaient, à chaque fois tu gardais tes élèves de l'année dernière, et donc c'est ça qui t'a beaucoup aidé aussi dans la mise en place, quoi. Cet été, je crois, si je ne me trompe pas de date, tu as aussi commencé la formation avec Juliette Dangeon.
Oui.
Voilà, parce que tu voulais, dis-moi si je me trompe, hein, mais tu voulais aller encore plus loin, faire une formation plus longue pour pouvoir continuer d'approfondir pour ta classe.
Bah oui, parce que voilà, j'avais la théorie, j'avais bien les maths, j'avais le langage, mais c'était surtout la vie pratique. J'étais là, mais voilà, je voyais des vidéos et tout, mais voilà, il me manquait des choses, il me manquait des billes, je ne voyais pas assez comment mettre en place les ateliers. Et puis voilà, dès que tu mets les ateliers d'eau, il faut quand même que ce soit bien carré, structuré, enfin voilà, pour pas que ça parte en cacahuète. Donc voilà, Et puis j'avais encore soif d'apprendre, j'ai toujours soif là. C'est aussi une révélation. Et là, j'en veux plus, j'en veux plus. Et donc voilà, j'ai réussi
à te faire financer la
formation. À faire financer par Formiris la formation de Juliette. Donc voilà, j'ai eu une semaine au mois de juillet, et là j'ai eu une semaine à la Toussaint déjà. Ça va être 5 semaines en tout.
Et donc. 5 semaines en tout. Okay. Ouais. Et qu'est-ce que... Donc là, tu as déjà eu 2 semaines.
2 semaines.
Deux semaines. Une cet été, une aux vacances de la Toussaint. Est-ce que ces 2 semaines, sur quoi vous avez travaillé? Est-ce que ça a eu déjà un impact sur ta classe?
Oui. Alors, ça a un énorme impact. Ben, on a beaucoup travaillé la vie pratique et la vie sensorielle. Donc, ben, la vie pratique, là, j'ai pu en mettre les 3/4 en place. Comme ça, je sais comment leur présenter. Et la vie sensorielle, il y a plein de choses que je ne savais même pas leur présenter. Hein. T'as le matériel, mais voilà. Le cabinet de géométrie, j'en avais aucune idée. La table de Pythagore, en fait, il y a plein de choses à faire avec. Je connaissais que la façon classique avec les carrés, mais je vois qu'il y a plein d'autres choses à faire.
Ouais. Donc, tu approfondis ta connaissance du matériel pour pouvoir faire des présentations aux enfants. Ok. Et parlons 2 minutes du financement, parce que ça, c'est la grande question quand on est enseignant. Alors, il y a plein d'enseignants ou d'enseignantes comme toi qui ont envie de se former, mais le côté financier est un frein, ce que je comprends. On a envie que ça soit le Formiris, l'Éducation nationale, qui paye nos formations. Est-ce que tu veux parler juste deux minutes des démarches que tu as faites, si c'était facile, par le parcours du combattant, pour au moins que les enseignants du privé sous contrat puissent savoir à quoi s'attendre?
Alors oui, moi c'était avec Formiris parce que je suis dans le privé sous contrat. Alors, ça dépend de, par région. Donc, moi, c'était la directrice de la région, là, de Bourgogne-Franche-Comté, avec qui j'étais en contact. J'ai eu un entretien. Et donc, en fait, j'ai découvert ça. On a le droit de se faire financer des formations qui ne sont pas dans le catalogue Formiris. On a le droit à d'autres formations, n'importe quoi. Hein, si on veut devenir tourneur, si on veut faire de la tapisserie, en fait, ils peuvent t'aider à financer. Mais en général, s'ils veulent bien te financer, finance la moitié de ta formation. Et donc, je leur ai expliqué. Et là, la directrice, elle a été géniale. Elle m'a dit, mais votre formation, ce sera un plus pour l'école. Alors, je vous la finance totalement.
Ah oui. Alors, impeccable.
C'est parfait. Et puis après, voilà, il y a eu quelques problèmes administratifs. Voilà, ils m'ont fait un peu stresser entre Juliette Dangean et Formiris. Mais après, ouais, voilà. Ça s'est résolu, les problèmes administratifs, et puis c'est parti.
Donc voilà, c'est faisable.
Mais c'est faisable, oui. Après, voilà, ça dépend, ça marche par région aussi.
Oui, c'est hein. Ça. Après, pour les enseignants du privé sous contrat qui nous écoutent, il paraît que d'une région à l'autre, c'est très différent. Ouais. Mais voilà, je suis en train de découvrir tout ça, parce que ça fait des années que j'ai envie que ma formation soit aussi finançable et que les enseignants n'aient pas à payer de leur poche. Et donc voilà, j'ai enfin trouvé des réponses par rapport à Formiris et bon, le chemin va être encore long, mais au moins je sais par quelle étape passer et voilà, j'ai enfin compris comment ça fonctionne quoi. Donc moi mon but c'est que ma formation puisse un jour être dans le catalogue de Formiris et que les enseignants puissent choisir, voilà. Bon, forcément ça sera pas 50 heures, ça sera 18 hein, je pense, c'est 18 heures par an, c'est ça?
Ouais.
Maximum, hein.
Je sais pas comment ouais. Mais
on doit, se former 18 heures par an, je crois.
Ah oui, on doit se former 18 voilà. heures par an, oui.
Voilà, mais c'est jamais plus que 18, du coup. Enfin, je pense pas qu'ils financent plus que 18, mais bon.
Bah après, là, la formation que je fais avec Juliette, c'est plus que 18,
bah, hein, oui.
C'est 5 semaines. Mais, comme... mais ça, c'est un truc... Oui, c'est pas quelque chose qui est en catalogue, c'est quelque ça. Chose que qu'on peut demander en plus.
Ouais, mais c'est bon, voilà, c'est bon à savoir pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc voilà, là, on a parlé un petit peu de ton parcours, de cette transition vers la pédagogie Montessori. Et maintenant, j'aimerais rebondir sur tout ce que j'ai pu observer ce matin, parce que j'ai passé 2 heures dans ta classe à filmer et à observer les enfants. Et alors moi, j'ai été scotchée par leur autonomie. Parce que je me dis, on n'est qu'en novembre. Si on était au mois de mai, au mois de janvier, ok. Là, on n'est qu'en novembre. Et c'était... Alors, tu avais aussi moins d'élèves aujourd'hui, vu que tu avais...
Oui, il y avait beaucoup d'absents. Là, il y a une épidémie. Voilà. Donc, il en manquait 9, oui.
Voilà. Bon, du coup, ils étaient 17 au lieu de 26, c'est ouais. ça? Voilà. Donc, 17, c'est sûr que bon, 9 de plus, j'imagine que ça aurait été un petit peu différent. Mais... quand même, ce que j'ai remarqué en fait, j'ai pu observer vraiment des enfants calmes, responsables, qui s'entraidaient, qui cherchaient des solutions par eux-mêmes. Ils n'ont pas passé leur temps, tu vois, à venir te solliciter toi ou la TSEM ou l'AESH pour voilà, ils cherchaient le, voilà, vraiment ils vivaient leur vie quoi en fait. Ils vivaient leur vie. Et j'ai vraiment des belles images, voilà, qu'on pourra partager sur le ouais. site de l'école, sur le blog. Mais voilà, j'ai vraiment vu des belles choses ce matin. Et en fait, je pense que cela vient du fait que tu as initié ce changement depuis ces 3 dernières années et que tu as les mêmes élèves, ouais. en fait, plusieurs années de suite. Ah, tu les connais, ils te connaissent, ils connaissent ton fonctionnement, ils savent ce qui est possible, pas possible. Et c'est ça, en fait, qui change tout.
Ah ouais, ouais. Ça, c'est très important, oui, je pense. Parce que c'est pas... De réexpliquer au début, c'est trop long. Et... Là, j'en ai gardé beaucoup. Là, je comment dire. Que j'en ai... Oui, donc, je les ai gardés les années précédentes. Donc, ils me connaissent. Et l'an dernier, j'ai beaucoup poussé... beaucoup plus vers l'autonomie. En chaque fois qu'il me posait une question, j'étais là, non, je peux pas, tu te débrouilles, tu demandes à un copain, tu demandes à un autre. Et comme ils t'ont entendu, à un moment ils ont dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, non, c'est pas grave, t'as renversé de l'eau, non, c'est pas grave. Ils m'ont cherché, ils savent très bien. Et je les pousse à trouver la solution. Chaque fois qu'ils me disent, il y a un problème, bah, je cherche une solution.
Ouais.
Voilà, l'an dernier, ils avaient fait tomber des panneaux, là. Ils étaient embêtés d'avoir fait tomber le panneau, mais je ne vais pas le remettre, le panneau. Vous allez trouver une solution. Ils m'avaient mis 3 tonnes de scotch, c'est pas grave. Mais ils avaient remis le panneau. J'ai trouvé ça super mignon.
Ouais. Ouais, donc vraiment, l'autonomie des enfants a été flagrante. Je suis rentrée comme une petite souris à 9h, l'accueil avait déjà été fait. Tous les enfants étaient déjà là. J'ai commencé à filmer, certains m'ont regardé pour se dire « Oh, c'est quoi ce caméscope ?» Voilà, c'est pas tous les jours que quelqu'un filme. Mais après, en fait, ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié, ça se voit sur la vidéo. Des fois, je filmais un enfant, il ne me voyait même pas parce que, voilà, tellement attentif, tellement concentré sur ce qu'il faisait que je n'existais plus, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ce que j'ai vu aussi, c'est en fin de matinée, comment ton aide maternelle a réagi avec Théophile, petite section, hein, c'est ça, un petite section qui voulait peindre. Et donc vous avez des grands t-shirts qui servent de blouse, quoi, voilà, un grand t-shirt. Et Théophile avec le t-shirt, au début ça se voit bien sur la vidéo, il a pris le trou de la tête et comment il a fait ? Enfin je sais pas. En tout cas ça aurait pas pu marcher, c'était pas la bonne technique. Il enfonçait, je sais plus. Oui, je crois qu'il avait pris le t-shirt à l'envers et puis il essayait de mettre le trou de la tête comme ça à l'envers. Enfin bref, ça aurait pas fonctionné. Et ton aide maternelle a vu en fait qu'il était en difficulté. Et j'ai trouvé sa réaction formidable parce qu'elle s'est baissée, elle s'est baissée pour être à sa hauteur et elle l'a observée et puis elle a attendu en fait. Elle était là, genre je suis là quand t'as besoin de moi, tu me le dis, tu me fais signe, mais elle n'est pas intervenue tout de suite. Et après elle a dit tu veux de l'aide ? Il a dit oui et donc elle a pris le t-shirt, elle l'a mis par terre et elle lui a montré en fait sur elle comment faire pour pouvoir enfiler ce grand t-shirt. Et après, elle lui a reposé au sol pour qu'il puisse le faire par lui-même. À un moment, la manche n'était pas en face, enfin le trou n'était pas en face de son bras, et donc ça coinçait un peu. Mais voilà, elle lui a laissé l'opportunité en fait de faire par lui-même. Et donc, il était tout fier de lui. Après, il a commencé à peindre. Voilà, il a installé sa feuille, il a pris sa peinture, et c'était le moment du regroupement. Bon, déjà, on peut peut-être revenir sur l'attitude de l'aide maternelle avant de partir au regroupement.
C'est elle qui m'a aussi poussée dans cette démarche-là parce que elle connaît un peu Montessori aussi et avant de me lancer dedans, je lui en ai parlé, je lui ai dit j'ai vu ça, j'ai vu les vidéos sur internet, ça m'intéresserait bien de travailler comme ça. Et puis un jour, elle m'a dit allez si, vas-y, lance-toi, allez, on peut travailler comme ça, on peut le faire. Si tu me pousses, on y va. Je lui dis attention, hein, c'est parce que si tu me pousses, moi j'y vais vraiment, hein, j'y vais à fond. Hein.
Et donc voilà. Tu avais la chance quand même d'avoir une aide maternelle, une ADSEN, sensibilisée, ouverte, et puis qui a déjà, je ne sais pas si, comment elle était il y a 10 ans, mais là quand je l'ai observée ce matin, elle a déjà ça en elle, quoi.
Ouais, elle a ça en elle, ça c'est sûr.
Ouais, elle a ça en elle, elle n'a pas. J'ai pas entendu le son de sa voix, ou alors très très bas, mais je l'ai même pas entendu parler à voix haute comme ça de toute la matinée. Voilà, elle s'adresse vraiment, sa façon de s'adresser aux enfants, elle est parfaite, quoi.
Elle a déjà la posture. Voilà. Génial. Ah ouais, c'est ça. Moi, au début, j'ai appris beaucoup de, enfin, j'apprends toujours beaucoup d'elle, hein, parce qu'elle a 20 ans d'expérience. Et elle a une attitude avec les enfants qui,
On dirait que c'est inné un peu. Hein. Voilà.
Et ben la peinture, justement, à la pré-rentrée, on s'est posé la question. Justement, on a dit, on laisse la peinture en autonomie. Et donc, à la pré-rentrée, on s'est dit, comment on fait ? Donc, on a mis les flacons, on a mis la peinture, donc ils peuvent se servir tout seuls, dans la petite palette. Puis on a dit, pareil, il faut qu'ils se mettent le tablier. Et comment ils vont le mettre, le tablier. Donc voilà, on avait répété ensemble la procédure, comment elle allait leur montrer pour mettre le tablier. Parce que voilà, ça c'est un atelier que c'est plutôt elle qui intervient, qui le présente. Mmh. Donc voilà, on avait réfléchi à la présentation, à la pré-rentrée de cet atelier.
Mmh. D'accord.
Et puis j'avais dit, la condition, s'ils veulent faire, les petits veulent faire de la peinture, la condition c'est qu'ils sachent mettre le tablier. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs ateliers là, et voilà, tu peux pas le faire tant que tu sais pas faire ça. Tant que tu sais pas mettre un tablier, tu peux pas faire la peinture.
Donc voilà, Théophile ce matin a persévéré, ça a pris peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour le mettre, ce t-shirt, mais voilà, il était fier de lui, il a réussi. Et il commence à peindre, et là, regroupement. Fin de matinée, voilà, c'était la fin de la matinée. Et du coup, voilà, ce que j'ai trouvé génial, c'est que, évidemment, tu ne lui as pas dit « Papa, ça y est, tout le monde autour de l'ellipse, c'est le moment du regroupement », pas du tout. Tu as vu qu'il était en train de terminer, et tu l'as laissé terminer. Et d'ailleurs, l'autre petit garçon qui était à côté, lui, au moment du regroupement, il a décidé de lui-même de ranger et de rejoindre le regroupement. Enfin, voilà, ils ont le choix, quoi, en fait.
Voilà.
Et c'était rigolo parce qu'en fait, Théophile, il a un moment, vous faisiez des jeux de mains, vous tapiez dans les mains, c'est ça, des rythmes dans les mains. Et à un moment, il s'est dit, oh, il s'est mis à taper les mains, genre, oh, ça y est, il faut que je fasse comme tout le monde. Et puis, ton aide maternelle lui a dit, mais non, mais tu peux continuer, vas-y, termine, est-ce que t'as terminé? Voilà, elle lui a donné, en fait, l'autorisation de terminer ce qu'il était en train de faire, même si tout le monde avait déjà rangé et s'était regroupé, quoi.
Voilà. Donc, bah oui, et puis il venait toujours se finir sa peinture, fallait qu'il nettoie, donc il, voilà.
C'est ça,
et après... Je sais que ça allait être long de finir la peinture, de nettoyer, donc...
C'est ça, et après il a passé bien 5 bonnes minutes, voire plus, à nettoyer son petit bac, le bac où il y avait la peinture, pour que tout soit propre. Donc vraiment, c'était un bel exemple où les enfants peuvent développer leur autonomie. Et... par rapport à ton Natsem, j'ai remarqué en fait qu'elle avait l'ambiance est tellement posée. Alors ok, il manquait 9 enfants, mais l'ambiance est tellement posée que ton Natsem en fait peut avoir à la liberté de s'asseoir avec un enfant pour lui présenter un matériel, pour l'accompagner. Elle a cette liberté. Donc là, c'est vrai que ça. Enfin, j'imagine que c'était pas comme ça les premières années et peut-être pas comme ça tous les jours non plus.
Elle le fait beaucoup.
Ouais.
En fait, non, c'est. En fait, ceux qui bougent un peu trop, quand il y en a qui courent un peu, elle les prend. Et des fois, elle en prend 3-4. Et puis, elle fait beaucoup les ateliers de langage avec les cartes, comme elle a fait ce matin. Donc, c'est comme ça qu'elle gère, justement, ceux qui bougent un peu. Mais elle, non. Elle a besoin de fonctionner comme ça, de s'occuper des enfants. Et elle adore tout ce qui est jeu de langage, lire les histoires. Elle présente un peu la vie pratique et la peinture, ce qu'il y a.
Mais souvent, en début d'année, je pense que dans toutes les classes, c'est pas possible en fait que ce deuxième adulte, cet assistant, puisse se libérer. En général, tu sais, c'est l'enseignant, l'éducateur qui fait les présentations et l'assistant qui est obligé de gérer un peu le bon fonctionnement. Ah, tu as oublié de ranger si, enfin, tu vois, ou te caches pas derrière le rideau.
Alors après, oui. Après, oui, au début de l'année, c'était pas rangé comme ça. Mais d'un autre côté aussi, on n'est pas derrière leur dos à leur dire « t'as pas rangé ici, t'as pas... » Enfin, quand on le sait là, on sait qui n'a pas rangé, on peut aller lui rappeler. Mais en septembre, c'était le bazar, mais je ne sais pas qui n'avait pas rangé.
Oui.
Donc là, tu le dis à personne. Voilà. Moi, je rangeais beaucoup derrière, elle rangeait derrière, mais tu peux pas les accuser, tu peux pas dire aux enfants de ranger. Toi, tu sais pas qui c'est, tu vas pas demander aux autres de ranger. Voilà. Soit au moment du regroupement, là, tu fais participer tout le monde sur le rangement. Et voilà, je leur donne des missions. Mais tu vois, aujourd'hui, c'était même pas la peine, mais des fois, je leur donne des missions. Un tel va ranger les chaises, un tel vérifie que les pots de couleur sont bien rangés. Mais j'ai de moins en moins besoin. Maintenant, ils ont pris le pli, c'est de mieux en mieux rangé.
Et comment s'appelait ce petit garçon à qui tu as présenté l'escalier marron?
Clément.
Clément, j'ai commencé à le filmer, à faire les allers-retours. Il est allé poser 2 pavés de l'escalier marron, mais il s'est arrêté au bout du deuxième. Et il a laissé son matériel sur le tapis. Tu t'en es rendu compte, en tout cas en fin de matinée, j'ai vu que tu t'en étais rendu compte. Et pourquoi tu ne lui as pas demandé à ce moment-là de ranger? Tu t'es dit... Tu voulais lui laisser l'opportunité de le faire par lui-même à un autre moment ou qu'est-ce que tu t'es dit?
J'avais pas vu qu'il en avait rangé que 2.
Ouais.
C'est après, en fin de matinée, j'ai vu qu'il était toujours pas rangé et là, je lui ai dit, on va le ranger ensemble.
Ah, d'accord. Quand t'en es rendu compte, tu lui as invité à le ranger, d'accord.
Voilà. Mais avant, peut-être, t'as vu avant moi, mais moi, j'avais pas vu.
De toute façon, même quand on ne fait que ça, moi, mon seul rôle ce matin, c'est d'observer, on ne voit pas tout.
T'as vu plus de choses que moi ce matin.
Oui, parce que je faisais pas de présentation, mais en tout cas, même quand on fait que observer, on ne voit pas tout. Voilà. Bon, en plus, j'avais le caméscope dans une main. J'aurais bien aimé avoir une feuille et un crayon dans l'autre pour noter tout ce que je voyais. Mais ça va, je m'en rappelle encore un petit peu. Je voudrais aussi revenir sur la présentation que tu as faite. C'était un petit garçon avec le fil et l'aiguille. Voilà. Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs, du coup, le but de cet atelier et comment tu l'as présenté et la suite? Parce que, du coup, ce matin, enfin, on verra sur la vidéo, mais on n'a pas la suite.
On n'a pas. Ça vient du... Émilie, je crois, ça vient d'un site. C'est une directrice d'école qui travaille comme ça. Je crois que c'est Émilie. Donc, un site intéressant sur la couture, sur la cuisine aussi. Et donc là, j'ai repris sa progression pour la couture. En fait, elle a tout découpé pour faire de la couture. Donc, elle commence juste, première étape, c'est juste apprendre à enfiler un fil dans une aiguille. Deuxième étape, c'est apprendre à faire le nœud sur le fil. Donc, on refait la première étape, enfiler le fil et après, on fait le nœud. Et après, troisième étape, on commence à coudre, donc c'est sur de la maille, il y a des gros trous et c'est juste faire des points, c'est faire un rectangle. Là, c'est juste pour apprendre à faire des points. Et après, ben, à l'étape, on essaiera, je ne sais pas encore mis en place, mais c'est apprendre à coudre quelque chose. Ça ressemble à quelque chose, je me disais, je vais leur faire coudre leur prénom, coudre un dessin.
Moi, j'ai un petit lion et un château pour mes ateliers. Et c'est vrai que du coup... J'ai pas toute cette progression en amont pour l'aiguille, ça m'a donné l'idée, mais souvent c'est moi qui préparais l'aiguille, et une fois que j'avais préparé l'aiguille, tu sais, c'est très difficile pour eux, je pique dessus, tu vois, ça c'est
tout un apprentissage. C'est l'étape 3, ouais, c'est ça. Voilà, après j'ai aussi récupéré en bois avec un gros lacet, donc là ça permet d'apprendre aussi le dessus, juste comme ça. Et après, l'étape d'après, je voudrais faire, c'est coudre un bouton. J'ai retrouvé peut-être à prendre. Parce que sur son site, Émilie, elle met aussi différents points. Ils apprennent plusieurs points. Plusieurs points de couture. Donc, mais ça, tu vois, je l'ai mis en place il y a une semaine, en revenant des vacances, parce que j'ai fait ça pendant les vacances avec Juliette. Et puis, tu vois, ça fait qu'une semaine que c'est en place.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir tout comme ça du jour au lendemain, pouvoir avoir tout le matériel. Parce que là, on voit ta classe, on se dit, waouh, super, mais c'était au fur et à mesure, quoi.
Ah bah oui, oui. Oui, et puis là, c'est au moins la deuxième année. Après, voilà, j'ai beaucoup de matériel. Moi, c'est aussi grâce à l'appel. L'appel départemental, j'ai fait un projet pour avoir du matériel pour des souris qui m'ont... Donc, m'a donné un gros budget qui m'a permis d'acheter beaucoup de matériel. Oui. Puis l'école aussi a participé. L'OGEC de l'école aussi a participé.
Oui, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue peut-être l'année dernière où je t'ai dit, mais tous les feux sont ouverts. Tu as tes petits, moyens, grands à temps plein. Tu as cette possibilité d'acheter du matériel. Tu as l'ADSEM qui est parfaite. Voilà, tout est ouvert.
Et maintenant, j'ai même la formation. J'ai même la formation.
C'est vrai. Ce que j'ai beaucoup apprécié, même si je le sais évidemment, c'est le rapport au temps. Tu vois, le fait que les enfants de 8h30 à 11h, ils peuvent prendre leur temps. Tu vois, ça change tout par rapport à une classe traditionnelle où l'enseignant va rythmer tout le temps. On fait 20 minutes de ci, 20 minutes de ça, un quart d'heure, tu vois. Là, vraiment, le rapport au temps, mais même si je le sais, le fait de l'observer à nouveau, je trouvais ça merveilleux, quoi.
Oui, oui. Puis des fois, genre, voilà, peut-être qu'il tourne un peu en rond, des fois, peut-être qu'il s'ennuie, mais voilà, et du coup, ils sont obligés de chercher en eux ce qu'ils ont besoin.
C'est ça. Et tu sais, je fais beaucoup le parallèle avec les entrepreneurs, parce qu'en devenant formatrice Montessori, du coup, je ne suis plus en classe, je suis toute la journée devant mon ordinateur, tu sais, je suis devenue entrepreneur malgré moi. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir ces derniers temps en échangeant avec d'autres entrepreneurs qui ont différents projets, mais qui travaillent pour eux, en fait, du matin au soir, du lundi au vendredi. Ils n'ont pas, tu sais, c'est pas comme quand tu es salarié et que tu as tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, t'as le chef qui te dit, bon, alors, tel dossier, ça s'en est où? Quand t'es entrepreneur, en fait, c'est toi ton propre patron, tu vois, c'est toi qui décides combien d'heures tu veux travailler par semaine, sur quel projet tu vas travailler, quelle direction tu vas lui donner. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai pas été dans une école Montessori. Et je manquais quand même d'autodiscipline, tu vois, d'organisation, d'autodiscipline. Puis Internet, tu vois, il y a tout, avec toutes les distractions qu'on a autour de nous, tu vois, un message, une vidéo sur YouTube ou un super site qui tombe là. Et en fait, je me rends compte que cette autodiscipline, mais elle est fondamentale en fait, tu vois. Je pense que j'ai pris conscience de l'importance d'apprendre à faire des choix. Apprendre à faire des choix et cette autodiscipline en fait qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, parce que bon, même si t'es salarié, t'as besoin aussi de cette autodiscipline, tu vois, dans ta vie de tous les jours, quoi. Et donc voilà, je me dis, c'est une super opportunité quand les enfants peuvent vivre ça petit, quoi, tu vois. On peut toujours rattraper quand on est adulte, mais c'est pas pareil, quoi.
Mais on dit aussi que tout ce qui se passe avant 6 ans est quand même très marquant pour la vie des enfants, et je pense que c'est très important. Et moi, pour moi, c'est presque le plus important, là, parce que, voilà, on peut peut-être aller très loin en maths, on peut les faire lire, mais pour moi, le plus important, c'est qu'ils se connaissent, qu'ils soient bien dans leur basket et qu'ils arrivent à connaître leurs besoins et savoir, comme tu dis, hein, l'autodiscipline, que ça vient pas d'au-dessus. On fait pas ça, c'est pas parce que c'est pas parce que le policier te dit qu'il faut pas rouler à plus de 130 sur l'autoroute qu'il faut pas le faire. Non, tu ne roules pas à plus de 130 parce que tu sais qu'autrement c'est dangereux.
C'est ça.
C'est le savoir par toi-même et c'est ça que je voudrais.
Puis au niveau de la motivation aussi, j'ai toujours Théophile, hein, parce qu'en fin de matinée j'avais plus de batterie sur le caméscope, donc j'étais obligée de le brancher et donc forcément ça limitait mes mouvements dans la classe et j'étais dans le petit coin là-bas vers la prise et Théophile, du coup, était devant moi, donc je l'ai filmé. Ton Adsem lui a présenté le cadre d'habillage avec les boutons. Et c'était pas facile hein, pour lui au début. Voilà, il est en petite section, tu sentais quand même que ça lui demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ça lui a pris, je sais pas combien de temps, mais longtemps. Et arrivé au dernier bouton, ça se voit sur l'image, hein, c'était trop mignon. Il a souri, mais tu sens cette montée de dopamine, là, cette sécrétion de dopamine d'un coup. Il était trop content de lui, quoi, d'être arrivé au bout. Et tu sais ce qu'il allait faire? Il allait le reposer et il a pris un autre cadre d'habillage avec les...
Comment on appelle ça ? Les attaches cartables.
Voilà, avec les attaches. Et du coup, il était parti, tu vois. Alors, c'est pas du tout le même geste à faire. Donc, ton Adsem s'en est rendu compte, donc lui a montré. Et après, il était super concentré, super attentif, tu vois. Et là, il a vu quand même que je le filmais. À un moment, il a quand même levé la tête et il a vu que j'étais en face en train de le filmer. Et il m'a regardé, il me fait « Après, je vais peindre. » D'accord. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'après...
Oui, donc il l'avait... anticipé,
c'est
programmé.
Ça. C'est ça, mais il était vraiment, tu sais, il savait quoi, il savait où il allait. Et je suis pas sûre, mais il me semble qu'en début de matinée, c'était lui aussi, il y a un gros pot qui était resté par terre. Et j'ai failli, moi d'ailleurs, trébucher en filmant, mais je l'ai évité. Et je crois que c'était lui aussi. Il est passé, il a tapé dans le pot, il est tombé, et après, il s'est relevé. Et en fait, c'était extraordinaire. Il a repris le pot et il allait le remettre sur l'étagère. Tu sais, il aurait pu juste dire, je suis tombée, je me relève et je continue. Et en fait, non, il a quand même pris le temps d'aller poser, d'aller ranger ce matériel qui traînait par terre, quoi. Donc, j'ai trouvé ça formidable, quoi, en petite section.
C'est un petit, ouais. Voilà.
De fou, début d'année, milieu d'année, fin d'année, tu te rappelles ?
De juillet, je crois.
Ouais, donc milieu d'année.
Et puis, alors Théophile, il est arrivé, il ne savait pas mettre ses chaussures. Hein. Il ne savait pas mettre ses chaussures, hein, début septembre. Ah, je l'ai embêté avec ça.
Ouais, non, mais là, c'est l'autonomie qu'il a, c'est fou.
Et du coup, voilà, tu vois, en novembre, je l'ai embêté sur ça, hein, c'est le temps. On l'a embêté que sur ça.
Ouais. Et au moment de la récré, pareil, du coup, je l'ai beaucoup observé en fin de matinée. Et il allait mettre son manteau, sauf que les manches étaient retournées. Et de lui-même, en fait, il n'a pas demandé d'aide. Hein. Il a posé le manteau sur la table, il est allé chercher la manche, il l'a remise à l'endroit, hop, la gauche, la droite. Les manches étaient bien mises et hop, ça y est, c'est parti avec la technique comme ça, là, tu sais, en l'air. Et il a enfilé son manteau tout seul, quoi.
Tu es venu voir le 1er septembre. Ouais. Le chemin qu'il a fait en deux mois, Théophile, il est là.
Tu sais si à la maison, ses parents le laissent aussi faire par lui-même ?
Je sais pas.
Ils t'ont rien dit ?
Non.
Ok, ça. Je voulais aussi te demander par rapport au suivi. Comment tu... Je ne t'ai pas vu prendre beaucoup de notes dans la matinée. Est-ce que, en général, c'est le midi que tu notes tout? Comment tu t'organises, en fait, pour savoir quel matériel tu as présenté à qui?
Alors là, Joé, je note... aujourd'hui, j'ai pas noté au fur et à mesure, mais j'ai ma feuille avec tous les élèves et puis j'écris en face quel atelier je leur ai présenté. Je peux aussi noter des remarques, quel atelier j'ai vu qui les intéressait en ce moment, quel atelier ils font beaucoup en ce moment. Et j'ai aussi, ils ont chacun un petit cahier avec les photos de tous les ateliers. Mmh. Et je note dessus quand on a fait les présentations. Et puis aussi, je peux mettre la date de la présentation, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent encore le faire.
Oui.
Donc normalement, un peu plus tard, j'essaye de mettre un point vert quand je vois que c'est acquis. Ça, c'est pour les parents. C'est pour que les parents, à chaque vacances, puissent voir, vu que j'ai pas de classeur, que j'ai pas de...
Tu le fais plus pour rassurer les parents.
Voilà, pour que les parents voient où en est l'enfant. Donc, quel atelier il a fait, qu'est-ce qu'il sait faire.
D'accord. Et ce matin, j'ai entendu une petite fille de grande section, enfin, j'en ai déduit qu'elle était en grande section, te demander une présentation. Et tu lui as dit, les grandes sections, c'est plus l'après-midi. Est-ce que c'est une ligne de conduite que tu te fixes de présenter du matériel qu'aux petits et aux moyens le matin et parce qu'ils sont à la sieste en début d'après-midi et donc tu as que tes grands?
J'essaye de consacrer plus de temps parce que l'après-midi je consacre pas de temps aux petits et aux moyens parce que quand ils reviennent de la sieste même qu'ils reviennent de la sieste à 3h ils sont un peu, ils ont pas envie là, ils veulent faire des choses
endormis,
ils sont un peu endormis, ils veulent faire des choses qui les rassurent donc voilà, j'essaye. Après, vu que j'ai énormément de grands, j'ai 15 grands dans la classe, donc je fais quelques grands le matin aussi. Ouais. Mais voilà.
Et donc 26, ça veut dire 11 petits moyens?
Donc j'ai 5 petits et 6 moyens.
C'est d'accord. Ça. 5 petits, 6 moyens et 15 grands. Ok. Et à la récré, tu m'as partagé une anecdote avec deux enfants, tu sais, qui discutaient sur le son « en ». Est-ce que tu veux bien la partager parce qu'elle est trop belle, cette anecdote?
C'est hier après-midi, les grandes sections. Donc, ils avaient une petite fiche de phono à faire et puis derrière la fiche, ils doivent mettre la date. Et donc, au début de l'année, j'écrivais la date au tableau, je faisais le modèle et puis maintenant, je le fais plus. Enfin, si vraiment il y en a un qui me le demande parce que je vois que lui il n'y arrive pas, mais autrement je le fais plus. Ils ont la poudre du temps, donc ils regardent avec la poudre du temps et puis comme ça ils arrivent à se repérer quel jour on est. Donc ils écrivent la date en phonétique. Et donc ils voulaient écrire novembre et une petite fille qui demande comment on écrit le en dans novembre. Et donc il y en a une qui lui dit AN. Et l'autre, elle lui dit, mais non, viens voir sur la poutre du temps, novembre, c'est pas écrit A-N, c'est écrit E-M. Et là, je leur dis, les deux sont juste. On peut faire en E-M et en A-N. Voilà.
Ouais, j'aime bien,
on est au mois de novembre en grande section, et il y en a qui se posent des questions comme ça.
Ouais.
Voilà, il fera tous mes grandes sections n'en sont pas là, mais voilà, j'en ai quand même.
Mais oui, c'est ça, un des énormes avantages, c'est que chaque enfant puisse avancer à son rythme, en fait. Ouais. Je me souviens en grande section il y a 2 ans, j'avais un petit garçon qui était bloqué, mais vraiment bloqué sur les nombres de 11 à 19. Et ça. Non, c'était. Attends. C'était bien. Je me rappelle de lui avoir présenté. Si, j'étais avec les tables de Séguin, donc c'est ça, les nombres de 11 à 19. Et d'autres étaient déjà dans les. Jusqu'à 100 sans problème, tu vois. On était dans les 70, 80, 90. Il n'y avait aucun problème en peut-être milieu, fin d'année. Et ce petit, il bloquait avec le du 11 à 19. Et c'est pas grave, on a pris notre temps et on a continué.
Et oui, ça, c'est ce que j'ai remarqué, que des fois, ça sert à rien d'insister. Hein. J'en avais un autre, là, grande section, que je commençais un peu à m'inquiéter en début d'année, parce que justement, les nombres de 1 à 9, ils dépassaient pas le 4. Et puis j'ai refait la semaine dernière, et puis il s'est compté jusqu'à 10. Tu vois, en septembre, il comptait jusqu'à 4, t'attends 2 mois. J'ai pas fait grand chose. Hein.
Ouais, c'est comme si ça se décantait un peu tout seul.
Voilà, je pense que l'environnement il fait, et puis faut laisser le temps. Et puis il s'est compté jusqu'à 10. Enfin, dénombré jusqu'à 10, c'était surtout ça.
Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus quand tu passes comme une matinée ou une journée comme ça dans ta classe? Non, c'est 2 questions. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus et de quoi tu es le plus fière?
Je suis fière. Ouais. De quoi je suis le plus fière? Bah, je suis fière quand j'entends voilà, l'anecdote du « oh », quand j'entends des choses comme ça. Et dire ma famille, tous les soirs, faut que je... Peut-être pas tous les soirs, mais régulièrement, je leur en raconte une, il faut que je leur dise oh, « vous savez ce qu'il m'a dit ?» des anecdotes comme ça. J'adore, oui, c'est ben, comme, t'as vu ce matin, la petite Lison, là. Genre, elle écoutait pas, genre, elle faisait un autre atelier, et elle sait très bien qu'elle a repéré les lettres, le A, le I, que j'ai appris à un autre. Tu vois, ça, j'adore. Ils apprennent sans s'en rendre... Enfin, là, qu'elle ait appris sans s'en rendre compte. Et puis quand ils ont loué, comme tu dis, les Théophile, le sourire qu'il fait quand il est fier, quand tu vois ça, là, quand tu vois leurs yeux qui pétillent, quand ils sont fiers d'avoir réussi un atelier. Ouais. Mais moi, ouais, ma journée, elle est comblée quand je vois ça.
Et le fait d'être seule dans ton école à travailler avec la pédagogie Montessori, j'ai pas l'impression que ça soit un frein. Tu vis ta vie, quoi.
Oui, je vis ma vie. Je suis libre. Après, j'ai le soutien de la directrice, je pense que c'est important. Parce que autrement, je pourrais le vivre beaucoup plus mal. Là, j'ai la directrice, elle me suit totalement. Mais à chaque fois, mes réunions de parents sont bien passées. Chaque fois, j'ai de bons retours des parents. Donc, je me sens bien. Et enfin voilà, je suis animée de l'intérieur. Enfin, pour moi, c'est une révélation. Donc, je suis convaincue. Je pourrais pas faire autre chose. Hein, ça, c'est sûr.
On peut plus revenir en arrière.
Ah non, là, je peux pas revenir en arrière. Hein. Et puis voilà. Je me très bien. Si un jour il faut que j'ai des grands. Mais voilà, je ferai pas. Voilà.
Oui,
je ferai du Perfort ou je ferai du Montessori. Mais voilà, je travaillerai comme ça.
Ouais. Puis tu sèmes quand même des petites graines auprès de tes collègues, je pense.
J'espère que ça va mûrir.
Voilà, mais en tout cas, elle ne t'empêche pas d'avoir des petits moyens grands, donc c'est super, quoi.
Non, je me suis un peu bagarrée cette année pour les avoir, pour les garder aussi.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait toute la puissance.
C'est toujours simple, j'espère que ça pourra se faire encore les années d'après.
S'il y a un combat à avoir, je pense que c'est celui-là.
C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez m'enlever le matériel, je préfère garder les petits, moyens, grands et puis avoir de matériel. La coopération, c'est quand même ce qu'il y a de plus. C'est la valeur la plus importante à transmettre aux enfants de coopérer, de s'entraider. C'est quand même.
C'est ça, l'entraide, l'autonomie, faire des choix pour soi-même.
Pour moi, c'est ça le plus important.
Ouais. Donc là, tu nous t'envoies vraiment le message aux auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore de petits, moyens, grands, que même sans matériel, en tout cas, c'est toujours possible de commencer. Tu nous envoies plusieurs messages. Ça a changé ta vie, tu ne pourrais plus revenir en arrière. De ne pas se focaliser sur le matériel, parce que c'est possible de mettre des choses en place, de travailler déjà sur sa posture, de comprendre aussi les piliers de la pédagogie Montessori, parce que c'est quand même très différent de ce qu'on nous enseigne en formation initiale. Donc quand même de s'auto-former, de se former pour vraiment bien tout comprendre. Et qu'après, un des premiers combats à mener, c'est les petits, moyens, grands, quoi, pour que ça marche.
C'est le combat dans les écoles. Et c'est surtout la posture. Moi, je pense que même si tu n'as pas... Tu peux peut-être encore travailler en atelier, tournant de façon, mais... C'est ton regard, ce qui a changé, c'est mon regard sur l'enfant. C'est qu'on n'est pas un maître qui dit, qui donne quelque chose à enseigner. On est un guide, on est un tuteur. On suit l'enfant, on regarde l'enfant où il en est et on lui propose l'étape suivante. Il faut suivre l'enfant. Comme tu disais, qu'est-ce qui me rend fière? Ce qui me fait plaisir à moi personnellement, de façon plus égoïste, c'est quand j'ai trouvé la période sensible de l'enfant. Parce que pour l'instant, je n'arrive pas encore tout le temps à les trouver. T'as des fois, j'ai les enfants qui tournent en rond et tu vois, je vois, ils tournent en rond. Donc je me dis, là, il n'a pas trouvé ce qu'il faut. Et moi non plus. Mais quand j'ai trouvé la période sensible et quand tu vois, quand les lettres, quand t'as trouvé, c'est le bon moment, mais ouais. Faut voir, t'as même pas besoin de répéter la leçon en trois temps.
Ça va très très vite.
Tu l'entends une fois et je pousse.
C'est ça, puis
ils te font tac tac. Et ouais. Ça y est, je sais, ça c'est le B, ça c'est ouais. Le Q, ça c'est le 2.
Ouais. Et je vois que tu les as affichés, j'avais fait pareil en grande section, un peu vraiment sous la même forme, comme ça, en plus petit que les lettres rugueuses, mais elles sont.
C'est les mêmes.
Ah, c'est la même taille.
C'est la même taille. Ouais.
Ouais, comme ça, de loin, j'aurais cru que c'était plus petit. Mais en tout cas elles sont plusieurs sur une même feuille, voilà. Et j'avais voilà. Fait, voilà, pour pas que ça prenne trop d'espace au mur non plus, et j'avais fait pareil en grande section et j'adorais parce qu'à chaque fois c'est quoi ce son, ah ben demande à un tel, je t'ai entendu à un moment dire ça, pas pour les sons mais tu as envoyé un enfant vers un autre, demande lui, il sait. Je sais plus ce que c'était, mais
ouais, pour voilà. Les puzzles
voilà. Et c'est vrai que le fait aussi que ça soit affiché au mur, je trouve ça chouette parce que ils peuvent, tu vois, moi je les avais mis au coin bibliothèque.
Ouais. Bon, c'est pas
le coin bibliothèque est pas bien loin. Voilà. Donc, écoute, merci pour cette interview. Voilà, merci d'avoir fait découvrir aux auditeurs ton quotidien, ton parcours et tout ce que tu vis depuis ces dernières années. Merci de m'avoir accueilli ce matin.
Ah bah avec plaisir, tu reviens quand tu veux, voir l'évolution.
Oui, ça serait chouette de revenir en fin d'année ou milieu fin d'année, ouais. Ça serait chouette. Voilà, et on va voir ce qu'on fait de ces vidéos pour pouvoir diffuser au monde entier, c'est ça, hein, c'est ça.
Leur dire que c'est génial.
Voilà, on a l'autorisation des parents, j'ai évité l'enfant au gilet jaune, donc voilà, c'est bon. Super. Maintenant, on diffuse. Habituellement, je termine mes podcasts par toujours les trois mêmes questions, mais là, on ne s'était pas préparé. Est-ce que tu as des citations que tu aimerais partager que tu connais par cœur?
Il y a la « apprends-moi à faire tout seul ». Enfin, après, j'ai peut-être pas les mots
après, exacts. Apprends-moi à faire par moi-même.
Apprends-moi à faire par moi-même. Voilà c'est ça l'idée.
Est-ce que tu lis des livres en ce moment ou tu as lu des livres récemment qui t'inspirent en rapport avec notre sujet?
Alors, celui qui a déjà été dit et redit, mais moi qui m'a fait vraiment changer dans mon comportement vis-à-vis des enfants, c'est... parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent.
Faber et Massé. Voilà. C'est ça.
Enfin voilà. Et tous les enseignants devraient lire ce livre, je pense. Ouais.
Et d'ailleurs, ça c'est la version parent, mais il y a
la version enseignant.
Il y a
la version ado, il y a la version frère et sœur.
C'est ça.
Après, voilà, c'est toujours le même état d'esprit.
Bien sûr.
Voilà. Ouais. Mais je trouve que voilà. On devrait parler aux enfants que comme ça.
Ouais. Et si tu veux bien, eh bien, c'est moi qui vais partager mon coup de cœur. Je te le pique, parce que tu as déjà dit de quoi tu étais fière. Et bien moi, mon coup de cœur, c'était vraiment ces 2 heures passées dans ta classe, à observer ces petits entre 3 et 6 ans, développer leur autonomie, apprendre à... je les ai observés en train d'apprendre à faire des choix, s'entraider. Vraiment c'était voilà. Même si je sais que ça fonctionne, ça fait des années que je me bats pour ça, le fait de remettre d'avoir la possibilité d'être dans ta classe aujourd'hui, tu vois, ça me redonne du baume au cœur, quoi. Je me dis il faut que le monde entier s'y mette.
Bah, j'ai bien fait de pousser à venir alors.
Merci Guédola.
Alors, une anecdote, j'avais 2 garçons de grande section qui avaient pris un puzzle de géographie, ils avaient pris l'Afrique, un des plus difficiles. Et donc, ils avaient sorti toutes les pièces, et puis, donc, ils avaient quand même le modèle pour le faire. Et le modèle, il est référencé, il y a le nom des pays sur le modèle. Et donc, il y en a un qui essaye de faire le puzzle et puis il commence à râler parce que l'autre, il ne l'aide pas beaucoup, et il se trouve un peu seul. L'autre, il prenait le modèle et il était là. Mali. Voilà. Il ne l'aidait pas à faire le puzzle, mais lui, il était en train de lire le nom des pays. Voilà. Ouais. Ça me fait craquer.
Bah oui, c'est sûr. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode. Alors pensez bien à le partager à vos collègues et à vous inscrire pour recevoir la news du vendredi avec votre concentré Montessori réservé aux abonnés. Le lien est dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine !